Je m'appelle Benoît Fédry, je suis fondateur de Horse Leader et spécialisé dans le management émotionnel. Deux mots qui pourraient paraître antinomiques, mais que tout pousse à rapprocher aujourd'hui. Chez Horse Leader, nous sommes persuadés d'être désormais dans un monde où l'émotion prend une place primordiale dans la réussite personnelle et professionnelle. Intelligence émotionnelle, sérénité, empathie, concentration, instant présent, des mots puissants, mais qui pourraient paraître mystérieux. Comment les mettre en pratique? Sont-ils des concepts innés ou acquis par l'expérience? Pour compléter notre activité de formation managériale par le biais du cheval, nous avons voulu croiser différents points de vue sur ces notions. Nous sommes allés à la rencontre de spécialistes dans chaque discipline équestre, avec en toile de fond le management et l'émotion. Cavalier, jockey, entraîneur, meneur, driver, sélectionneur, coach, propriétaire, pour connaître leur avis, leurs pratiques et leurs conseils pour performer de manière durable. Nous avons rencontré Sébastien Pellon-Maison. Sébastien est pour ainsi dire multiculturel. Né en Argentine, il a ensuite parcouru le monde pour participer à diverses compétitions et événements équestres. Après avoir concouru à travers l'Europe, il a décidé de passer de cavalier international à coach international dans le but de former et d'accompagner des cavaliers. Sa plus grande motivation est de voir ses élèves s'améliorer et de prouver que tout le monde est capable de progresser, quel que soit son niveau. Sébastien Pellon-Maison a une vaste expérience de l'équitation et de l'entraînement à travers le monde. Vous risquez d'être surpris par un léger accent. Normal, Sébastien parle couramment 5 langues, français, espagnol, anglais, italien et portugais. Sébastien Pellon-Maison, bonsoir.
Bonsoir Benoît.
Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation et le temps que tu nous accordes ce soir.
Avec un grand plaisir.
Pourrais-tu tout d'abord te présenter en quelques mots?
Je m'appelle Sébastien Pellon-Maison, je suis argentin et je suis entraîneur international des sauts d'obstacles.
Alors, en quoi correspond ton métier finalement d'entraîneur?
Mon métier, c'est d'entraîner bien évidemment les cavaliers de tous les niveaux. Et ma philosophie, c'est de que tout le monde peut progresser, n'importe quel niveau. Voilà, ça c'est ma motivation principale.
Qu'est-ce que vient chercher un cavalier quand il vient demander tes conseils de coach?
Il vient chercher, voilà, d'apprendre et de progresser et avec des différents objectifs. On se fixe les objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Et le but, c'est de travailler en équipe et de se surpasser, je dirais même, et progresser tout le temps.
La performance, c'est quoi pour toi? Comment on peut définir la performance? Comment tu définirais la performance?
La performance, c'est de s'améliorer à chaque fois. Performance, c'est d'avoir des bons résultats. Et des bons résultats, tout est relatif. Moi, je vais donner un exemple qui est très précis. Par exemple, il y a des athlètes qui savent très, très bien avant d'aller aux Jeux Olympiques qui ne vont pas battre Usain Bolt, qui ne vont pas gagner les 100 mètres, mais qui vont se battre contre eux-mêmes. Ils veulent s'améliorer 10 centièmes et 5 centièmes. Ils veulent courir plus vite que l'Olympiade précédente. C'est ça, c'est une victoire personnelle et c'est ça qui est très intéressant.
Et alors, quelles sont les compétences justement à obtenir pour pouvoir performer?
Et il y a un point qui est très important, comme on dit en anglais, c'est le mindset. Il faut bien se structurer, le mental et développer aussi les feelings. Et tout, c'est apprendre. On peut très bien apprendre à développer l'empathie avec nos amis les chevaux et le mindset, comme je disais, et de se structurer mentalement pour s'améliorer à chaque compétition et à chaque année aussi.
Ce qui veut dire que quand on parle d'émotion, on parle de régulation émotionnelle?
Absolument. On va dire que, par exemple, le stress, ça peut être un très très bon gasoil pour nous faire bien marcher. Il faut juste le prendre du bon côté, de la bonne façon. Et les côtés émotionnels, il faut essayer de les contrôler, un peu comme tout dans la vie. Et les émotions, c'est jamais une très bonne conseillère. Si on arrive à les gérer, on peut se sublimer et être très performant.
Ce qui veut dire qu'un, je dirais, un cavalier apaisé a plus de chances de performer avec son cheval qu'un autre ?
Il a beaucoup de chances. Les chevaux, c'est un animal vivant qui est très sensible et qui perçoit nos énergies, nos états d'esprit, que ça soit conscient ou inconsciemment. Parce que quelquefois, on n'est pas conscient du, comme on dit en anglais, les body language, les langages corporels qu'on transmet au cheval. Et le cheval, il ne sait pas, il ne parle pas et il ne comprend pas les paroles. Il va comprendre la pression qu'on met dans les jambes, dans la main, et si on est très nerveux, si on est très apaisé. Donc, il va recevoir tous ces types d'informations avec les énergies et les langages corporels.
Est-ce que ça, c'est également, enfin, cette façon de voir les choses est également, pourrait être transposable au niveau de la relation avec l'autre, avec l'humain ?
Absolument, absolument. Et on doit, quand on est avec les chevaux, on doit juste être. Comme ça, tous les champs d'information se libèrent et on est plus propice à recevoir de l'information de la part de l'autre, que dans ce cas-là, c'est les chevaux. Et ça peut être très, très bien avec les êtres humains aussi. On développe beaucoup d'empathie avec les chevaux et notamment avec les êtres humains.
Au niveau de la, je dirais, des compétences pour réussir dans la relation avec le cheval. Tu as parlé d'empathie, tu as parlé de travail sur le mental. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres compétences ? Parce que finalement, on parle moins de technique que de travail sur son comportement.
Et c'est tout un ensemble. Et la technique, c'est un côté aussi qui est très important. Idéalement, si on peut réunir technique, feeling, travail et discipline et un peu d'empathie, et on a des très bons ingrédients pour avoir des très, très bons résultats. Voilà, après les chevaux, on essaye, nous, de les guider. Et comme on pourrait guider aussi un groupe de personnes, on essaye de les faire progresser. On monte beaucoup de chevaux, on a beaucoup d'élèves et on les fait beaucoup progresser. Et moi, je trouve que c'est ça un leader. Ce n'est pas celui qui donne les ordres, sinon qui fait progresser tout le monde. Voilà, comme ça, tout le monde il sera beaucoup plus à l'écoute et ils vont suivre beaucoup plus cette personne que c'est le leader.
Est-ce que tu pourrais différencier un bon cavalier d'un excellent cavalier ? La différence se fait où ?
Absolument, on peut différencier ça. La différence la fait les mentaux, les côtés mentaux. Voilà.
D'accord. Uniquement le mental ? Enfin, je veux dire, c'est...
Non, ok. Il y a des cavaliers qui sont à la base très doués, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, avec les talents, on ne va pas arriver très, très loin. Il y a besoin du talent et du travail. Et comme j'ai dit, il y a des structures de travail, des systèmes, des programmes qui font progresser tous les cavaliers, n'importe à quel niveau. Chacun a son niveau, mais c'est très important, les mindsets, les côtés mentaux.
Quand tu démarres un coaching avec un cavalier, donc vous fixez des objectifs, et ensuite, comment tu détermines un programme et la manière dont tu vas lui apporter des conseils ?
Moi, je commence toujours avec des couples cavalier-cheval que je ne connais pas, qu'on commence notre relation d'entraînement. Moi, je dis toujours, vous commencez, vous faites un peu comme d'habitude et je vais intervenir spontanément. Moi, j'ai besoin d'observer un peu pour recevoir de l'information et ensuite, je vois les chevaux, je vois les réactions que ça peut être avec la queue, avec les oreilles, avec tout son corps et ça me donne beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui est en train de faire les cavaliers à ce moment-là ? Donc, au fur et à mesure, il y a des cavaliers qui ont besoin de travailler un peu plus la technique. Il y a des cavaliers qui ont besoin de travailler plus le mental. Il y a des cavaliers qui ont besoin de travailler vraiment la relation avec les chevaux, que c'est un animal vivant. Donc, il y a plusieurs points différents à travailler.
Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler de la connexion au cheval ? Est-ce qu'elle est importante et comment elle se travaille ?
Absolument, la connexion est très, très importante. Quelquefois, quand on monte à cheval, ça peut passer 10 minutes, une demi-heure ou trois quarts d'heure et on a l'impression littéralement qu'on était dans une autre planète, on était dans une symbiose totale avec les chevaux et on est dans un autre état d'esprit, dans un autre niveau mental. Voilà, c'est ça la connexion. Quand on a l'impression qu'on réfléchit à peine et les chevaux, ils exécutent, qu'ils nous comprennent tout à fait. Et c'est ça la vraie connexion cavalier-cheval.
As-tu ou proposes-tu des méthodes de régulation émotionnelle ?
En quelque sorte, plus ou moins, je ne suis pas un spécialiste de ça, je suis un entraîneur à la base, mais j'ai pu travailler avec des coachs sportifs, des coachs mentaux. Donc, pour ma méthode, j'ai encore peur un tout petit peu tout. Voilà, comme quand on fait une sauce, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence. J'essaye d'être le plus complet possible. Et c'est ça ma passion. C'est ça les moteurs qui me donnent envie de travailler tous les jours avec mes élèves.
Un élève, un cavalier, sa capacité à travailler, à se remettre en question doit être toujours présente pour pouvoir progresser.
Tout à fait. C'est de la seule façon qu'on progresse, c'est quand on se remet en question. Et d'un autre côté, ce qui me motive énormément, quand on gagne une épreuve, par exemple, c'est très bien, on est content, on peut trinquer avec les champagnes, mais on n'apprend pas énormément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort, comment la résilience, quand on a un mauvais résultat, un mauvais parcours, de se remettre en question, d'accepter, de regarder clairement pourquoi on a échoué ou ça n'a pas été comme c'était prévu, et puis ensuite trouver la solution et résoudre les problèmes.
Alors comment tu aides un cavalier à faire cette remise en question ? Par quelles questions tu passes ? Par quelles questions tu lui poses pour lui permettre d'analyser froidement son parcours ?
Moi, je les laisse assez souvent se livrer à eux-mêmes et j'ai dit, voilà, t'as monté de cette façon. Ok, est-ce que ça marchait ? Non. Pourquoi ? Ok, parce que j'étais un tout petit peu stressé, parce que j'ai mis un peu plus de pression de la normale, de ce que j'avais besoin. Ou peut-être j'étais fatigué, j'ai monté la dernière épreuve à 22 heures, j'ai passé toute la journée et la longue attente enlève beaucoup d'énergie. Et on doit quand même, pour pouvoir performer correctement, on a besoin un tout petit peu d'énergie physique et mentale.
Et comment on la développe, l'énergie ? Et comment on la développe d'un point de vue positif ? Tu parlais tout à l'heure du bon stress.
Absolument.
C'est quoi le bon stress ?
Absolument. Il faut avoir un équilibre parce qu'être un peu trop stressé et de mauvais stress, ce n'est pas bon. Être un peu trop relax, ce n'est pas très bon non plus. On a besoin de ces petits papillons dans l'estomac quelquefois pour pouvoir se surpasser, se sublimer et performer surtout.
Est-ce que tu aurais un conseil pour les managers qui nous écoutent ? Aujourd'hui, dans le monde actuel, la manière de fonctionner, est-ce qu'il y a des choses que tu peux vivre dans tes coachings, dans tes accompagnements, qui pourraient être transposables
oui,
au niveau du management ?
Tout à fait. Moi, je dirais, et beaucoup écouter et essayer de développer l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très, très important. J'ai dit bien se mettre à la place de l'autre parce que quelquefois, ça m'arrive que pour moi, un exercice ou un parcours, c'est très évident. Il faut le faire comme ci ou comme ça et ça va aller tout seul. Et pour l'élève, ce n'est pas si évident que ça. Et quelquefois, l'élève, ce n'est pas qu'il ne veut pas les faire, c'est qu'il ne peut pas les faire. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de comprendre pourquoi il ne peut pas les faire et travailler sur ces côtés-là, que c'est le côté mental.
Se mettre à la place de l'autre, est-ce que c'est la définition que tu donnes de l'empathie ou est-ce que tu définirais l'empathie différemment ?
Non, moi je pense que l'empathie, il faut se mettre à la place de l'autre et essayer de sentir ce qui ressent l'autre personne. Et quelquefois, il appréhende une situation, il peut avoir des a priori, il n'ose pas prendre des risques. Et moi, j'encourage tous mes élèves à prendre des risques et à se tromper autant de fois qu'ils ont besoin pour pouvoir exécuter l'exercice correctement et pour pouvoir progresser. Voilà.
prendre des risques, c'est sortir, alors on peut appeler ça sa zone de confort, sa zone de sécurité, sa zone d'aisance. Facile à dire, moins facile à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil qui permettrait de le mettre en application ?
Absolument, tu as très bien dit Benoît. Et moi, j'essaie de pousser tous mes élèves à sortir de la zone de confort. Parce que, bien évidemment, la zone de confort, elle est très, très agréable, elle est très, très plaisante. Mais il faut faire attention de ne pas trop s'y habituer parce qu'après, on va avoir de plus en plus de mal à en sortir. Donc, il faut s'efforcer un tout petit peu. En faisant, on apprend. Et ensuite, quand on se surpasse, et quelquefois au départ, on ne croyait pas, mais qu'on dit « Ok, on ne réfléchit pas trop, on va sortir de la zone de confort, on prend des risques, et qu'après ça marche », on ressort de la situation beaucoup plus fort qu'avant. Donc et ça, ça donne beaucoup de confiance et ça donne encore plus envie de travailler et d'essayer des choses et encore côtoyer l'extérieur de la zone de confort.
Alors, tu as employé un terme très, très fort, la notion de confiance. Cette notion-là, j'imagine que tu la travailles dans tes accompagnements. Comment faire prendre confiance à quelqu'un ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est...
Oui, et c'est aussi très important, c'est une équipe et c'est un constant échange. C'est très important aussi que l'autre personne soit prête à se laisser aider. Voilà, on a tous besoin d'aide, tout le monde a besoin d'aide. Il faut trouver la façon qui nous convient le mieux, le plus, et pour se faire aider. Et il y a certaines Moi, j'ai certains élèves, ils jouent vraiment le jeu tout de suite et on voit assez rapidement l'évolution. Et on voit d'autres qui ont un tout petit peu plus de mal. Et ça peut se jouer aussi pour une question de fierté, d'ego. Et surtout, quand on est en équipe avec les chevals, il n'y a pas d'ego avec l'entraîneur ou une entreprise. Et je pense que l'ego... Il faut les laisser un peu de côté et aller tous dans la même direction. Voilà, ça c'est le plus important.
Ce qui veut dire qu'on pourrait transposer cela en évoquant le fait que pour se remettre en question, l'idée c'est d'être humble. Humble pour pouvoir avancer, quoi.
Absolument, absolument. On voit souvent les très grands sportifs aux chefs d'entreprise et... On en parle avec eux et on a cette image très puissante. Et finalement, on parle d'égal à égal et avec les pieds sur terre, avec aussi du réalisme, que c'est une partie très importante. Et être humble, c'est une clé de succès aussi.
On parle souvent d'un mot qui pourrait avoir une connotation simplement, je dirais, sportive, mais qui pourrait aussi s'aborder en entreprise, mais la notion de concentration. Est-ce que ce terme-là te parle et est-ce que tu l'utilises dans tes accompagnements ?
Absolument. Et la concentration, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie en général, que ce soit pour gérer un groupe de personnes, pour faire un excellent parcours, même pour conduire la voiture. Et j'essaye d'inculquer un peu à mes élèves. Et la concentration, il faut se créer un système, une structure que dans une journée de concours, par exemple, tout doit être clair. Il doit savoir à quelle heure ils vont prendre le petit déjeuner et quoi comme petit déjeuner, à quelle heure ils vont déjeuner. S'ils ont un tout petit peu de temps pour se reposer un peu, pour administrer l'énergie. Si l'énergie elle est bien administrée, on a plus de chances à garder la concentration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. C'est une autre clé très importante de la réussite en général.
On parle de plus en plus alors d'une notion qui s'appelle la méditation. Est-ce que cette méditation, là encore, c'est quelque chose d'abstrait ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile aujourd'hui pour progresser dans une pratique ?
Moi, je pense que la méditation, c'est quelque chose de très positif. La méditation en soi, c'est juste vider la tête, être dans le moment présent et penser à rien. Ce qui est très difficile dans les moments qu'on vit actuellement parce que la société nous force beaucoup à être tout le temps dans le mouvement, très très vite, et la performance de tout, il faut qu'on fasse tout très vite, et on a beaucoup beaucoup des idées dans la tête en même temps. Donc c'est un très bon exercice juste pour vider la tête. Et en fait, quand on est dans un parcours, il faut avoir la tête vidée et juste être là, concentré à 100% avec les chevaux. Voilà.
Le cheval est capable de ressentir si son cavalier a d'autres choses dans la tête que ce qu'il est en train de faire, s'il a une distraction mentale, en clair, s'il n'est pas disponible mentalement pour travailler avec lui. Est-ce que ça, il le ressent réellement ?
Tout à fait. Moi, j'ai dit ça très clairement. Le cheval, c'est un miroir du cavalier. Donc, ça nous arrive à tout le monde, tous les cavaliers. Quand on est bien, vraiment bien, qu'on est frais, qu'on est concentré, on finit, dit « Oh là là, mon cheval, il a super bien travaillé, il était génial. » Et quelquefois, quand on a des soucis, quand on est trop de choses dans la tête, un peu fatigué et tout ça, on dit « Oh, mon cheval, il n'était pas très bien et tout ça. » C'est les chevaux, ils ressentent tout. Et si le cavalier est bien centré et concentré, avec de la bonne énergie, il ressent ça tout de suite. Et on a plus de chances au couple cavalier et cheval à faire des bonnes performances.
Qu'est-ce qu'un cavalier serein arrive à obtenir de son cheval et également dans la relation aux autres ?
Alors, un cavalier serein, il transmet bien évidemment la sérénité à son cheval, qu'il est très sensible. Et la sérénité transmet beaucoup de confiance. La sérénité simplifie les choses et éclaire les choses. Quand on est serein, si on a un plan, on a marché la piste, on a le parcours, les rythmes, les foulées, l'équilibre, quand on est serein, ça vient plus automatiquement tout ça. Et les chevaux, ils ressentent tout.
Alors, ils ressentent tout, c'est notre miroir. Donc finalement, qu'est-ce qu'il attend de son cavalier ?
Moi, je pense, en revenant à la sérénité, les messages sont beaucoup plus clairs et il va arriver de l'autre côté, que ce soit les chevaux ou un être humain, et il va arriver plus facilement et plus clairement. Quand on a besoin de parler en équipe et en public, quand on est serein, les messages ils arrivent beaucoup plus facile et beaucoup plus clairement et beaucoup plus percutant. Voilà. Et les chevaux, c'est exactement pareil. Quand on est serein, ils ressentent ça. Donc, tout notre langage corporel ou la tactique à employer pour faire un bon parcours, ils les ressentent tout de suite et très clairement.
En termes de communication, on n'est pas culturellement habitué en France, même si on sait que plus de 90% d'un message est impacté non pas par les mots, mais par le non-verbal et le paraverbal, mais on n'a pas cette culture de la communication liée à l'observation, un terme que tu as utilisé tout à l'heure sur ta capacité à observer les gestes, les attitudes, les postures. Comment ça se développe ça ? Comment aider à finalement travailler sur cette communication différente avec un animal qui ne va pas nous répondre par rapport à ce qu'on va lui demander ? Enfin, en tout cas, il ne va pas nous répondre par le même canal de communication qu'on a eu l'habitude d'avoir depuis notre petite enfance.
J'encourage à tout le monde à essayer de vivre cette expérience extraordinaire avec les chevaux et de les observer, de les écouter. La réciprocité, et c'est quelque chose de génial. Et c'est une expérience, pour moi, que je suis entraîneur, c'est un tout petit peu plus normal, entre guillemets, plus banal. Mais je connais plein d'autres personnes qui sont essayées, ils ont été vraiment bouleversés, frappés positivement à quel point ça les aidait à comprendre l'autre, à comprendre les prochains. Voilà, que ce soit un animal ou un être humain.
Ça peut également aider, j'imagine, à mieux se comprendre soi, puisque c'est l'effet miroir, la capacité à mieux comprendre finalement son fonctionnement et son comportement.
Absolument, il n'y a pas de hasard quand on va approcher un cheval. Et, par exemple, on va approcher un cheval qui est extrêmement sensible. Et si on arrive vers le cheval un peu brusquement, sans se rendre compte, c'est un peu inconscient quelquefois, le cheval, il va avoir une réaction. Donc là, on va dire, oula, voilà, là, j'ai peut-être été un tout petit peu trop fort. de mon côté et du côté du cheval, j'ai quelqu'un en face de moi qui est très sensible. Donc, et après, à moi d'administrer la dosification de mon langage corporel pour me faire mieux comprendre et créer une vraie connexion avec l'autre.
Tu as une méthode de coaching. Est-ce que cette méthode-là, elle s'adapte aux différents profils d'élèves que tu as? Ou est-ce que finalement, c'est à eux, à ces personnes-là, de s'adapter à ta méthode de coaching?
Non, ok, j'ai une méthode et j'essaie de m'adapter à tous parce qu'on est tous un univers différent. Je donne un exemple. Je vais avoir un élève qui va parler des techniques et pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, et il va demander encore. Et je vois un autre élève qui, au bout de 5 minutes, il ne faut plus lui parler de technique parce que ce n'est pas son truc. Voilà. Et à la fin, il faut que je les convaincre avec les choses que j'ai dit, pas imposer, les convaincre que ça va marcher. Donc, si j'arrive à les convaincre, ils vont y croire dans la méthode et puis ça va être plus facilement et ça va venir plus naturellement d'eux-mêmes. Voilà, il faut s'adapter. C'est comme tout, il y a même des chevaux qui sont très timides, il y a d'autres chevaux qui sont très sûrs d'eux-mêmes. Donc, il faut adapter le travail, il faut adapter l'entraînement suivant la personnalité de chacun.
Ce qui veut dire que la connaissance du cheval avec qui on va travailler est primordiale.
Absolument, absolument. Absolument. Il y a certains, par exemple, il y a certains juments que c'est des vraies dames, c'est des reines. Donc, il faut vraiment les vouvoyer. Si on les traite comme ça, on a plus de chances d'avoir un bon match qui coopère avec nous et les respectons énormément. Après, il y a d'autres chevaux, par exemple, qui sont un peu tendance à être un tout petit peu froid, un tout petit peu feignant, comme on dit. Donc ça, il faut les motiver un peu plus. On a un travail adapté et avec beaucoup de fonds, beaucoup de sorties en extérieur pour motiver et stimuler le mental et le moral aussi.
Le mental se stimule.
Absolument. Absolument, absolument. Et puis aussi, et quand on fait tous les jours la même chose, autant les chevaux que nous, les cavaliers, on peut commencer à s'ennuyer un peu. Donc, c'est important de varier les travails, de faire des choses différentes, et puis d'attirer un tout petit peu l'attention. Comme ça, on peut avoir un tout petit peu plus de concentration de leur part.
Alors, comment, justement, on développe cette notion d'attention? Finalement, je pourrais dire, comment on devient intéressant? Comment le cavalier devient intéressant pour son cheval?
Un cavalier devient intéressant pour son cheval quand il est à l'écoute et quand il demande différentes choses, peu de choses, souvent. Il ne faut pas qu'il demande quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le cheval, il va finir par s'y habituer. Donc, la répercussion, ça va être minimale. Si on commence à connaître le cheval et on sait qu'un tel exercice, ça maintient son intérêt très vif, etc. Voilà, après, de petit à petit, on connaît et on commence à changer les exercices que le cheval apprécie, qui le maintient attentif. C'est comme avec les personnes. Si je vais vous parler tous les jours du même sujet, à un moment donné, vous ne m'écoutez plus. Parce que ça ne devient pas intéressant. Donc, il faut s'intéresser tout le temps, il faut se remettre en question et pour essayer d'avoir beaucoup de fraîcheur dans tout ce qu'on fait.
En termes de profil de chevaux, ce qui veut dire que chaque cheval va demander une méthode et une approche différentes?
Absolument, absolument. Il y a certaines bases qui sont à respecter, mais on adapte toujours à la personnalité du cheval. Tout à fait.
Mais par contre, on pourrait dire qu'il y a des cavaliers qui ne savent pas ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas adapter leur méthode. Ils ont une méthode, ils vont la déterminer. C'est au cheval de s'adapter ou non.
Absolument.
Mais ceux-là ont peu de chances de performer avec différents chevaux.
Tout à fait, tout à fait. Il y a certains cavaliers qui veulent que tous ces chevaux à égalité ils rentrent dans un certain moule. Et quelquefois, ça ne marche pas avec tous. Et on a d'autres cavaliers qui essayent plus d'interpréter chaque cheval individuellement et ils ont plus de chances à performer. Moi, j'ai des élèves qu'il faut surtout que je les félicite devant tout le monde parce que c'est ça qu'ils aiment. Et il y a d'autres que surtout pas. Hein. Il n'y a surtout pas, tu les prends à part et voilà. Mais c'est ça, dans les ressources humaines, quelque chose qui est très intéressant. Tu sais, parce qu'à la fin, j'ai fait faire. Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est eux qui font. Donc, c'est à moi de trouver la clé, les boutons, de dire où c'est le bouton qu'il faut qu'il touche pour que ça marche. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Moi, je suis un fou. Moi, tous les jours, je lis, je regarde des vidéos. Je suis presque un malade de ça. C'est ma motivation. Moi, ma philosophie, c'est que tout le monde peut progresser. Absolument tout le monde. Pour moi, c'est impossible que quelqu'un ne progresse pas. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, ma motivation, voilà. Et puis surtout, comment revenir des moments difficiles? Comment se relever quand on tombe? Quand on gagne? Oui, ça dure 5 minutes. On est champion du monde et tout ça, mais à l'endemain, on recommence à nouveau. Hein. Donc, si on a performé, ça va être encore plus dur d'encore performer ou de maintenir les niveaux. Donc, ce qui m'intéresse à moi, c'est comment créer les mindsets pour les cavaliers et les chevaux. Ah, ces chevaux-là, moi, quelquefois, ça m'arrive de faire un yo-yo, ce qu'on dit. Non, un yo-yo que le cheval, il a fait peut-être la 1m30, après la 1m50. Mais je vais faire après un 1m25-30 pour garder le moral, pour qu'il n'associe pas qu'à chaque fois qu'il rentre dans la piste, c'est un effort. Et c'est une angoisse. Voilà, de temps en temps, il doit rentrer en piste en disant « Oh, je vais prendre du plaisir, ça va être amusant, I will have fun. » Et pas à chaque fois qu'il associe rentrer en piste, effort, rentrer en piste et stress. Donc c'est à nous de gérer ça, de gérer les morales, de gérer les mentales.
Voilà. Ce qui veut dire que tu apprends aussi à développer la capacité, alors à perdre sur du court terme,
ah oui,
et pour gagner après. Quoi.
Ah oui, savoir perdre, c'est on doit apprendre à perdre pour après à gagner.
Et le plaisir est important dans la performance?
C'est très important. C'est très, très important. Moi, j'insiste beaucoup à tous mes élèves qu'on peut travailler avec beaucoup de disciplines, très professionnellement dures, mais que la partie plaisir, c'est très important. Il y a un pourcentage de plaisir qu'il faut l'avoir parce qu'on a plus de chances à bien faire les choses quand on prend du plaisir. Voilà.
La notion après de, je dirais, regard sur soi, regard sur soi, toi quand on parle de maîtrise émotionnelle, en fait, quand on parle d'intelligence émotionnelle, même si ça fait un peu marketing, l'intelligence émotionnelle, mais c'est une forme d'intelligence dans laquelle on va dire qu'on peut inscrire deux formes d'intelligence qui sont la maîtrise de soi, donc l'intrapersonnel, la relation à soi, où j'arrive, la concentration, la connexion, la maîtrise de son propre stress, et l'interpersonnel, la relation à l'autre, l'empathie. C'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'on rentre dans une connexion émotionnelle et on peut parler de management émotionnel, comme j'imagine qu'on peut parler aussi d'intelligence émotionnelle dans sa relation à la fois à l'épreuve et à la fois à son collaborateur qui est le cheval. Quoi.
C'est très important, c'est un travail quotidien. Si on peut les faire quotidiennement, on va progresser, on va s'endurcir, on va avoir de la fitness, de la résistance physique et mentale. Donc, on va pouvoir gérer de mieux en mieux. On va avoir un tout petit peu plus de, entre guillemets, de contrôle de soi. Si on fait ça une fois par année, c'est comme un exercice, c'est comme aller à la salle de gym, c'est comme courir, c'est comme nager, c'est comme monter à cheval, c'est un exercice quotidien. Et quand on est chef d'entreprise aussi, c'est un exercice quotidien, l'échange avec les personnes qu'on dirige, les personnes qui ont leader, voilà. Et c'est quotidien, everyday exercise, voilà.
pour finalement faire travailler et développer ce muscle.
Exactement, c'est un muscle. C'est un muscle, voilà, c'est comme qu'on lever des poids et courir et voilà, nager, et etc. Tout à fait.
Alors, si je vais me livrer à l'exercice, moi je fais des courses de trotteur. L'autre jour, j'ai une course avec mon cheval, mon seul cheval actuellement, qui est très bon. J'ai une stratégie que je me suis déterminée avant la course. Je fais 7 heures de route pour aller courir à Agen. Démarre la course, je pars très bien. Ça, c'est le premier temps important dans une course. Donc, le départ, je pars très bien. Et là, je vois arriver un concurrent qui veut me passer devant. Je n'ai pas la capacité mentale de ne pas le laisser passer. En fait, je le laisse passer alors que ma stratégie initiale, c'était on ne laisse pas passer, je ne laisse pas passer des concurrents qui ne me semblent pas performants. Il s'avère que ce concurrent-là me fait reculer dans le peloton et je termine septième parce que j'étais dernier à l'entrée de la ligne droite. Je finis très bien, je demande un effort à mon cheval, il le fait. Première réaction, j'en veux à l'autre de m'être passé devant alors qu'il n'avait aucune chance de pouvoir performer ce jour-là. Est-ce une réaction normale ? Est-ce que je dois me remettre en question de suite ou est-ce que dans la réflexion, après, j'analyse ma course et je peux me remettre en question ? Je peux avoir une réaction immédiate, mais de remettre la faute sur l'autre et pas sur moi.
Oui.
Est-ce que c'est normal ?
Ça, c'est quelque chose, ça fait un travail sur soi. Pour moi, j'ai une politique, une philosophie. Moi, je ne fais pas partie de la philosophie des excuses. D'abord, je me remets en question, moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux performer ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas laisser passer ? Voilà, déjà, essayer de comprendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Et je ne mets jamais la faute sur les autres. Voilà. Et c'est même, voilà, c'est comme ça qu'on sort un tout petit peu de la zone de confort. Et en se remettant en question comme ça, on va avoir la force de commencer à oser à prendre des risques, à oser à sortir de la zone de confort. Et on va commencer à les faire. Et la prochaine fois, on ne va pas les laisser passer. Même si on est, ah là là, la limite, on est presque à la rupture des... Mais on est tenu fort. On a tenu dans la durée. Parce que peut-être pendant 2-3 secondes, on a voulu empêcher l'autre, mais au bout de 10 secondes, on n'avait pas les fitness mentales et physiques. Et c'est un travail quotidien de faire et refaire et refaire et refaire. Voilà, il faut toujours se donner la chance d'essayer. Il y a toujours une nouvelle chance. Voilà.
Et sachant que, comme il y a le cheval, le couple, c'est aussi de se dire, est-ce que je ne vais pas trop fort, trop loin ? Est-ce que je ne vais pas proche de sa rupture à lui physique qui va le dégoûter ou qui va le faire qui va pas performer ?
On parlait tout à l'heure de la sérénité et je pense que c'est très important, surtout dans ces moments-là, on va appeler ça un peu des moments un peu critiques parce que on est à la limite, voilà, de passer soit d'un côté, soit de l'autre. Mais sérénité, on donne les ordres justes au cheval. Le cheval, il va mieux les accepter, il va mieux les incorporer. Et on aura plus de chances à que les choses sortent bien. Comme on les avait souhaité au départ, qu'on avait une stratégie, il faut respecter la stratégie. Il faut mourir avec la stratégie. Et on fera les comptes après. On n'a pas la boule de cristal avant la course ou même pendant la course. On sait les résultats à la fin. Donc, ce qui est très important, c'est de dire, OK, j'ai fini la course, j'ai un sentiment que j'ai tout donné, que j'ai tout essayé. Et n'est pas, ah, j'aurais pu essayer ça, ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, ça, c'est pas bien. Il faut finir la course et n'ayons le sentiment, j'ai tout essayé. Voilà. Et ensuite, on fait les comptes après. J'ai gagné ou j'ai pas gagné. Voilà. Soit j'ai gagné ou soit j'ai appris. Voilà.
Par contre, ça veut dire quand même qu'on peut avoir cette capacité d'adapter une stratégie si on, le feeling de tout à l'heure, hein, c'est est-ce qu'on doit rester centré sur sa stratégie, quitte à apprendre après, ou est-ce qu'on peut se dire, tiens, je sens quelque chose qui me permettra peut-être de gagner et j'essaie d'adapter. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas prendre des risques ?
Absolument, absolument. Il faut avoir toujours plan A, plan B, plan C. Il faut avoir les pouvoirs d'adaptation à des imprévus. Parce que même dans la vie en général, on a des imprévus. On avait prévu de partir en vacances et tout ça, et puis les vols est annulé, et il y a eu un incendie dans le camping, et voilà. Il faut développer les pouvoirs d'adaptation. L'être humain, il s'adapte à tout. À la fin, il finit par s'adapter à tout. Donc, c'est à nous de développer les sens d'adaptation pour avoir un éventail de possibilités et de solutions au moment venu, quand il y a, entre guillemets, les problèmes. Être réaliste, lucide et avoir du recul. C'est très important parce que ça m'est arrivé avec des élèves qui étaient très lucides, très réalistes, avec beaucoup de recul, qui m'ont même surpris. Et c'était des chevaux que moi j'ai montés de temps en temps de mes élèves, ils allaient très bien et tout ça. Et un jour, dans une leçon, mon élève, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Et à un moment donné, il m'a dit, écoutez, c'est peut-être moi que je ne donne pas les bons ordres au cheval. Hein. Attention, et pourtant, c'était un élève avec un très haut niveau, un élève de 5 étoiles. Et il a eu la lucidité, le réalisme et le recul pour dire, ah, peut-être aujourd'hui, je ne suis pas dans un très bon jour. Un coup de fatigue, un coup de stress, la tête peut-être pas très claire. Et il a reconnu que, voilà, que les chevaux, ils réagissaient à son langage corporel. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique. Il n'a pas cherché des excuses, il s'est remis en question lui-même et il a reconnu que peut-être, voilà, c'était dû à son langage corporel, que les chevaux, il n'était pas très bien, comme c'était la plupart des entraînements. Voilà.
Alors, toi, pour le coup, tu réponds à la question là de, tu sais, quelles sont les compétences finalement pour performer et les compétences pour progresser. Est-ce que tu fais une connexion entre l'émotion et la performance?
Oui, bien sûr, c'est des très bonnes émotions, des émotions positives et des émotions bien canalisées. Et ça m'est arrivé à moi en tant que cavalier ou à des élèves qui après avoir effectué un super parcours, et les feedbacks, c'est qu'ils se sentaient tellement bien, tellement en harmonie, et que depuis qu'ils se sont levés le matin, tout était facile, et la vie et les souriaient, et ils ont pris un vrai moment de plaisir et pendant son parcours. Voilà. Donc ça, c'est au niveau émotion, c'est quelque chose de très fort, de très positif, et c'est tout à fait une émotion.
Le niveau d'harmonie ressenti par le cavalier le jour du concours est important.
Absolument, et on est tout le temps aussi à la recherche des émotions. On est à la recherche des émotions, du plaisir, de performer, de cette adrénaline. On est à la recherche des émotions. Donc, c'est très important.
Sébastien, donc tu es coach, tu es entraîneur. Je vais faire le parallèle avec le métier de manager, le rôle de manager. Est-ce que toi, tu en fais des parallèles? Est-ce que tu pourrais finalement finalement proposer une transposition possible entre toi, ton métier de coach et le métier de manager en entreprise? Est-ce que tu vois des passerelles?
Absolument, parce que c'est très similaire, si ce n'est pas égal. Et l'intérêt d'un manager d'entreprise et l'intérêt d'un coach, d'un entraîneur, c'est de guider son équipe, et ses élèves et les gens qui travaillent ensemble à les améliorer, à les faire performer chacun dans, dans sa tâche, on va dire. Donc, c'est tout à fait lié. Ça peut être très, très bien. Et les coachs, l'entraîneur, comme les managers d'une entreprise. L'intérêt, c'est de faire progresser les gens qu'on s'en occupe. Voilà.
Alors, je vais te poser une question sûrement pas simple. Quelles sont les compétences pour devenir un bon coach? Ou les compétences nécessaires pour être un bon coach?
De savoir de ce qu'on parle, pas avoir de l'information, que ce n'est pas pareil. Avoir de l'information, oui, j'ai lu dans un livre ça et je répète les choses. Ça, c'est avoir de l'information. Et savoir, ça veut dire que moi, je sais de quoi je parle. Et je pense que les élèves, ils ressentent automatiquement ça. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant parce qu'à la fin, ils savent que peut-être on n'a que de l'information et on ne sait pas. Il faut vraiment connaître les sujets. Il faut vraiment savoir de ce qu'on parle. Voilà, pour bien pouvoir transmettre.
Donc, incarner réellement ce qu'on fait, ce qui veut dire automatiquement avoir de l'expérience passée. On ne peut pas devenir coach sans avoir de l'expérience.
Je pense que c'est très important, l'expérience. C'est très important parce qu'on peut plus facilement donner les conseils, on peut plus facilement se mettre à la place des autres parce qu'on a vécu des moments et merveilleux de succès et on a vécu des moments avec beaucoup de déceptions, tristesse et frustration qui arrivent à tout le monde parce que l'espoir ou la vie est le fait des victoires et des défaites.
Sébastien de Pelon-Maison, je te remercie pour ce temps que tu viens de nous accorder.
Un plaisir partagé, Benoît Fédry, et je te dis à très bientôt.
Pour cette minute managériale, je reviendrai sur un mot évoqué plusieurs fois par notre invité, le mindset, en français, l'état d'esprit. Celui-ci est plus que nécessaire pour réussir et faire réussir son équipe en tant que manager. Un état d'esprit ouvert à l'observation, pour recevoir des informations et trouver ce dont le collaborateur a besoin pour progresser, un état d'esprit ouvert à la remise en question, à l'acceptation de l'erreur, tout en regardant, de manière claire et lucide, ce qui s'est mal passé pour améliorer ce qui peut l'être, le droit à l'erreur comme vertu managériale. Un état d'esprit ouvert à l'adaptation pour continuer à performer. Un état d'esprit ouvert à la connexion qui permettra à l'autre de se laisser aider, sentir ce que l'autre appréhende et lui montrer le gain à sortir de sa zone de confort, qui permettra en outre de créer de la confiance. Enfin, un état d'esprit ouvert sur l'instant présent, en sortant du diktat de l'urgence, reprendre du temps, créateur de valeur, mettre en place un slow management, aidant à développer de la sérénité transmissible à l'autre, permettant de délivrer un message plus clair et donc plus propice à la performance. Le cheval, miroir de l'homme, l'équipe, miroir du manager. Le cheval devrait être l'une des bases du management.